Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Canal Académie et votre fidélité en particulier aux émissions à thème historique. Dans cette dernière émission de la série sur l'État bourguignon de 1363 à 1477, Philippe Contamine et Bertrand Schnerb, éminents médiévistes que nos auditeurs connaissent bien, évoquent de nouveau Charles Téméraire, le dernier des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Et il s'agit aujourd'hui d'une seconde émission sur le Principat du Téméraire qui complétera la première. Philippe Contamine est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien médiéviste, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Ses travaux portent sur la guerre, l'État, la noblesse, l'économie et la vie privée entre le XIIIe et le XVe siècle. Bertrand Schnerb est spécialiste de la société et des institutions bourguignonnes des XIVe et XVe siècles, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lille 3 et auteur de l'État bourguignon 1363-1477 chez Perrin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Madame. Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau au micro de Canal Académie. Alors, en ce qui concerne Charles le Téméraire, je rappelle juste ses dates. Il est né en 1433. Il fut duc pendant 10 ans, de 1467 à 1477. Et comme ses prédécesseurs, il se lance dans une politique entreprenante d'intervention, d'expansion territoriale. Car l'espace qui sépare les possessions du nord et celles du sud s'amenuise. Et bientôt, il pourra aller des unes aux autres sans sortir de ses états. Ses ambitions le portent vers les terres d'Empire et il rêve même du titre de roi des Romains. Philippe Contamine, qu'est-ce que c'est que ce titre de roi des Romains et pourquoi est-ce que Charles le Téméraire pourrait avoir des ambitions impériales?
Pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas? C'était à sa portée. Je pense que Charles le Téméraire était, disons, un chef d'État, c'est une affaire entendue. Mais c'était également un grand romantique à sa manière et il était hanté par les héros de l'Antiquité et notamment par la figure d'Alexandre. On sait qu'il connaissait très bien, à la mode médiévale, la figure d'Alexandre et peut-être que son ultime ambition était de laisser un nom dans l'histoire comme Alexandre avait laissé un nom, un mythe, pour ainsi dire. Alors, du reste, comme il dit, la moitié de l'Europe ne l'eût contenté. Et donc, il avait vraiment des ambitions très grandes. Et je pense que cette force qui va, il faut la considérer également sous l'angle de la passion, tout autant que sous l'angle de la raison. Alors, ce qui me frappe également, c'est que, comment voir les choses? Eh bien, si j'avais été le duc Charles, je me serais préoccupé avant tout de mon héritage, de ma succession. Et il est évident qu'il avait à la fois une chance et une malchance. Une chance, il n'avait qu'une fille, son héritière, et apparemment, il n'était pas possible pour lui d'avoir d'autres enfants. En tout cas, c'est ce qu'on a dit après. Bien. Alors donc, du même coup, il s'agissait pour lui de léguer tous ses biens à cette fille. Et du même coup, il y avait le problème de son mariage. À qui marier cette fille? Marie, n'est-ce pas? C'était la plus riche héritière d'Europe. Alors, c'était pour lui un atout maître. Il pouvait la promettre aux uns et aux autres, etc. Et pourquoi pas au fils de l'empereur, Frédéric III, Maximilien, et Maximilien de Habsbourg, qui était plus ou moins destiné à succéder à son père, mais il n'y avait rien d'automatique dans le système politique impérial. Et Charles le Téméraire envisageait de devenir roi des Romains, du vivant de Frédéric III, roi des Romains, si vous voulez, c'est un titre en second derrière empereur. Hein. Et puis ensuite, il aurait donné sa fille Marie à Maximilien. À la mort de Frédéric III, on peut toujours rêver, lui, Charles le Téméraire, serait devenu empereur, et son gendre, roi des Romains, c'est à peu près ça. Voyez-vous. Donc, c'était ça la combinaison. Bon, c'était peut-être pas inaccessible, c'était assez bien calculé, assez bien raisonné, mais ça s'est heurté à des faits et à des événements, à des obstacles qui étaient imprévisibles, mais qui ont empêché la réalisation de ce magnifique projet.
Oui, si vous me permettez, je pense qu'effectivement, d'abord, Charles le Téméraire, c'est un prince d'Empire. On le voit, nous, du côté français, comme évidemment, un prince français, il est duc de Bourgogne, mais une large partie de ses territoires sont des terres d'Empire. Il est duc de Brabant, il est comte de Hollande, Zélande, Hainaut, Namur, il est comte de Bourgogne, donc la Franche-Comté, etc. Et c'est un personnage qui a un poids dans l'Empire. il a effectivement cette ambition de s'allier à la maison de Habsbourg. C'est assez tôt que ça apparaît chez lui. Bon, les Habsbourg, évidemment, sont assez séduits par ce mariage. Comme vient de le dire M. Contamine, cette Marie de Bourgogne, elle sera la petite fiancée de l'Europe, parce que le duc va la proposer à tout le monde. Enfin, quand on fait la liste de tous les princes d'Europe qui ont été, à un moment donné, pressentis pour épouser Marie de Bourgogne, on est quand même très impressionnés. Mais les Habsbourg reviennent souvent dans la liste, et le duc, finalement, avait là un atout. Peut-être ne voulait-il pas de fils aussi, parce que vu les problèmes que son père à lui avait eu avec son fils, sagement, c'est-à-dire dit qu'une fille, ça suffisait. Mais je crois que c'est Philippe de Comines qui ne l'aurait marié, cette fille, que lorsqu'il... Non, il rapporte une parole de Charles le Téméraire qui aurait dit « Je ne la marierai que lorsque je serai franciscain de l'observant », c'est-à-dire quand les poules auront des dents, en gros. C'est-à-dire que, d'après Philippe de Comines, jamais de son vivant, Charles le Téméraire n'aurait marié sa fille. C'était un trop grand atout politique. Il n'empêche que cette alliance avec les Habsbourg, finalement, elle va se faire. Elle va se concrétiser. L'alliance de la maison de Bourgogne et de la maison de Habsbourg, c'est l'issue finalement de cette situation. Mais il est vrai que ce qui est stupéfiant dans cette histoire de la maison de Bourgogne, c'est que Charles le Téméraire ne se soucie pas d'avoir un héritier. Il considère qu'avoir...
Il n'a pas le sens de la dynastie.
J'enfonce le clou, il aurait dû marier sa fille au plus vite pour avoir des petits-enfants. N'est-ce pas? Bon, un ou deux ou plusieurs. Il ne l'a pas fait. Donc, mon idée, c'est qu'il n'a pas dans la tête une idée dynastique.
Il pense peut-être que ça peut passer par sa fille. Mais c'est vrai que c'est quand même un autre paradoxe de l'histoire bourguignonne. C'est un autre paradoxe. Je pense aussi qu'il ne se voyait pas mourir de cette façon. Il ne voyait pas sa carrière s'interrompre aussi brutalement. C'est certain, parce que s'il imaginait Frédéric III mourant avant lui, c'est évident qu'il avait une vision longue de son existence. C'est très probable.
Enfin, quand il se tourne vers les terres d'Empire, son premier objectif, ce sont les possessions Habsbourg, sans doute, en Haute-Alsace et en Forêt-Noire, car là aussi, ce sont des régions stratégiques de part et d'autre du Rhin, qui peuvent assurer des débouchés économiques sur le Rhin et le Main, et il a un très bon sens de la gestion et de la maîtrise du territoire.
Oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Je crois que l'année la plus importante, c'est l'année de 1473. Et cette entrevue qui a eu lieu à Trèves, entre le duc Charles... Cette malheureuse entrevue, le duc Charles et l'empereur Frédéric III. Donc il y a eu plusieurs possibilités qui ont été discutées au cours de cette entrevue. La première possibilité, que le duc Charles devienne roi des Romains. La deuxième possibilité, c'était que l'empereur, qui n'avait le pouvoir... Ils ont créé un royaume pour le duc Charles, un royaume qui eût été situé à l'intérieur de l'Empire. Et donc là, il y avait trois variantes. Il y avait premièrement le royaume dit de Lothier, c'est-à-dire bon, le royaume de Brabant, de la Basse-Lorraine, si vous voulez, le royaume de Chypre, le royaume de Frise, et puis la troisième possibilité, peut-être la plus séduisante, le royaume de Bourgogne, parce qu'il y avait déjà eu dans l'Antiquité, disons dans le Bas-Empire, un royaume de Bourgogne, et les Bourguignons, Olivier de la Marche et les autres, se plaisaient à rappeler qu'il y avait déjà un roi de Bourgogne chrétien avant Clovis, c'est-à-dire l'antériorité. Alors ce royaume de Bourgogne, eh bien, il aurait été même plus vaste que, disons, les domaines bourguignons du duc. Donc c'était quand même une assez belle possibilité. Ça a failli se faire, semble-t-il. Et puis à un certain moment, Frédéric III, peut-être qu'il était circonvenu, etc. Peut-être que Louis XI lui avait passé par là, mais Frédéric III n'était pas sot. Il n'était pas très puissant, mais il n'était pas sot. Il avait des conseillers, etc., à décamper. Et le malheureux Charles Téméraire, qui se voyait déjà roi, pour le moins roi, sinon roi des Romains, du roi de Bourgogne, eh bien, il y a eu un échec de sa part. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, disons, ses ambitions géopolitiques, stratégiques ont pris le dessus. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être, qu'il a souhaité réunir les pays de par-de-ça, les pays de par-de-là, et donc, du même coup, cette politique en Allemagne, cette politique sur le Rhin, cette politique en Lorraine, qui aurait pu, si ça avait réussi, changer la configuration de facto de la domination bourguignonne.
Si vous voulez, je crois qu'effectivement, bon, Charles le Téméraire a des vues sur la vallée du Rhin, hein, c'est très clair. Donc il y a l'acquisition de la Haute-Alsace et de la Forêt-Noire dont vous parliez, la conquête du duché de Gueldre. Ça veut dire en fait, il se place dans la haute vallée du Rhin et dans la basse vallée du Rhin. Donc il a la possibilité de placer sa puissance à la fois au débouché du Rhin et dans la haute vallée du Rhin. Donc il y a certainement la volonté d'avancer dans cette direction-là. L'échec de Trèves, c'est vrai, c'est surtout le fait que Frédéric III était soumis finalement à de très fortes pressions. Parce que Frédéric III est évidemment séduit par l'alliance avec la maison de Bourgogne. Il voulait finalement prendre le plus possible à la maison de Bourgogne en donnant le moins possible. C'est tout à fait politique, c'est très bien. Mais il faut bien voir que, certes, il y a la diplomatie de Louis XI, mais il y a à l'intérieur de l'Empire des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler d'un prince comme Charles le Téméraire à la place de Frédéric III. Il n'est pas question de laisser ce prince welch, n'est-ce pas, ce prince français, devenir empereur. Donc il y a de très fortes résistances au sein même des princes d'Empire. Et puis il ne faut pas oublier l'importance dans ce secteur des villes aussi. Parce que Charles le Téméraire, c'est un représentant d'une maison princière qui s'est beaucoup heurtée aux villes.
Oui, donc les villes impériales ne voulaient pas.
Les villes impériales et les villes de la vallée du Rhin, qui sont extrêmement puissantes, ne voulaient pas du tout d'un duc de Bourgogne trop puissant dans cette région. Donc il y a de grands facteurs de résistance. Et puis déjà, à ce moment-là, avec l'implantation de la puissance bourguignonne en Haute-Alsace, alors déjà, il y a un adversaire qui commence,
confédérés.
Voilà, qui commence à se manifester, ce sont les confédérés suisses, qui ne veulent absolument pas d'un duc de Bourgogne qui menacerait Mulhouse, qui est allié de la Confédération, ou qui menacerait Bâle. Et là où le duc de Bourgogne s'implante, il menace effectivement ses positions, et donc il menace déjà les intérêts des confédérés suisses et de leurs alliés.
Donc on va parler des guerres bourguignonnes qui se tournent à l'est auprès des confédérés et des bernois, qui sont un peu expansionnistes aussi.
Oui, je crois que la ville de Berne a une politique expansionniste. Les Bernois veulent assurer leur position dans les vallées qu'ils peuvent contrôler pour pouvoir contrôler les échanges commerciaux, et éventuellement mettre la main sur quelques seigneuries qui appartiennent soit au duché de Savoie, soit à des seigneurs savoisiens ou savoyards.
Oui, pour le passage dans les Alpes.
Oui, oui, il y a une vision économique, très certainement, dans la politique bernoise. C'est là que l'expansionnisme bernois va se heurter à la puissance bourguignonne.
Philippe Contamine, deux grandes défaites, oui, Granson et Morat en 76.
Voilà, reprenons les faits. En 1472, l'armée bourguignonne envahit la France du Nord, jusqu'aux approches de Rouen. Dévastation en particulier de tout le pays de Caux, qui a été véritablement ravagé, parce que le duc de Bourgogne n'y allait pas, disons, sans répression, sans destruction, le feu, etc. Et puis échec à Beauvais, vous l'avez cité, Jeanne Hachette. Bon. 1474, eh bien, il s'entête à vouloir prendre la place de Neuss sur le Rhin. Donc, c'est la grande politique rhénane. Cologne, c'était quand même un petit peu difficile, mais Neuss, c'est quand même plus petit. Et pendant quasiment un an,
il
avait le siège de Neuss, il est resté là. Il y avait toute une ville, tout un campement avec le quartier des Bourguignons, le quartier des Picards, etc., des Anglais et tout. Encore un autre échec. Mais ça se termine, malgré tout, par l'occupation de la Lorraine. L'occupation de la Lorraine. Et le malheureux duc de Lorraine, René II, n'est-ce pas? Eh bien, il est chassé de ses territoires. Et donc, il va, je suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, mais enfin, on a une source qui nous dit, c'était le Jean de Nancy, et il leur dit, bien, vous avez tout à gagner à me suivre parce que Nancy sera la capitale de mes futurs états. Voilà la situation. Si bien que, en 1475, au moment de l'occupation de la Lorraine, et une partie des Lorrains, malgré tout, s'est laissée séduire, incontestablement, eh bien, il est encore très puissant. Et les Allemands le redoutent. On l'appelait le Turc de l'Occident. Pour voir, hein, les villes d'Alsace, sans compter même les villes flamandes qui n'aimaient pas trop son style de gouvernement, à la française. Il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de lois, beaucoup de règlements, etc. Donc tout cela fait que en 1475, il avait encore des forces intactes, en dépit de ce siège de Neuss, qui a quand même été un échec, il faut bien le reconnaître, mais enfin des forces intactes, il avait de l'argent, il avait des volontaires, et il avait un appareil militaire en apparence parfait, parce que cet appareil, premièrement, réunissait une très belle artillerie, une très belle artillerie de campagne. Deuxièmement, il y avait des compagnies d'ordonnance à la mode bourguignonne, avec une réglementation impeccable. Il y a une ordonnance de Saint-Maximin, les Trèves, qui est admirable. Troisièmement, il y avait des Anglais, hein, les archers. Et quatrièmement, il y avait même des Italiens, n'est-ce pas? Donc, c'était une armée cosmopolite. C'est pas le reflet de la sociologie de l'État bourguignon, mais il avait choisi le mieux, les éléments les meilleurs de l'art militaire de son temps. Et il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue, c'était la phalange suisse, la nouvelle forme d'infanterie que les montagnards suisses avaient mis sur pied. Ça, il ne l'avait pas. Et donc, je crois qu'il a été avant tout vaincu militairement, plus encore que politiquement, par ces lourds régiments suisses à pied, les piquiers, les halbardiers, etc., qui ont été vainqueurs de Charles le Téméraire en trois coups, à savoir Grandson, Morat et Nancy.
Je pense effectivement que, bon, Neuss, il s'entête parce que cette ville lui résiste. Il ne faut pas qu'elle résiste. C'est une question de prestige politique. Au bout d'un certain temps, cette obstination à prendre Neuss, c'est parce que la maison de Bourgogne a une politique de prestige et Charles le Téméraire est quelqu'un qui utilise beaucoup cette arme. Il ne peut pas partir comme ça. Il ne peut pas décamper. Donc il faut quelque chose. Bon, il y aura effectivement une escarmouche contre l'armée impériale qu'il va remporter. Et ainsi, ça sera l'occasion de dire, voilà, je suis vainqueur, je peux partir. Mais il ne pouvait pas partir comme ça. Donc il s'entête, c'est une question de prestige. Ensuite, il y a ce coup incroyable, mais il faut dire que ça a quand même surpris tout le monde. C'est la victoire des Suisses à Grandson. C'est-à-dire que l'armée bourguignonne, il y a une amorce de bataille,
oui, mais
et puis l'armée bourguignonne vole en éclats. C'est-à-dire qu'en fait, elle se disloque. Je crois que ça a été une surprise pour lui, évidemment, mais pour tout le monde, et pour les Suisses aussi. Et alors, c'est une perte de prestige considérable.
Ils n'en sont pas encore revenus.
Une perte de prestige considérable, puisque le camp bourguignon tombe aux mains des Suisses, qui font un butin absolument fabuleux, dont on parle encore dans les montagnes.
Mais heureusement, parce que ce butin est resté en Suisse, mais il n'a pas été détruit pendant la Révolution française. Donc, on a quelques petits restes de l'époque bourguignonne grâce à ça, finalement.
Il y a eu des pertes.
Oui, il y a eu quand même des pertes.
Mais alors,
la défaite de Grandson contraint le duc à restaurer son prestige. Donc, il doit lever une deuxième armée. Et là, il part dans des conditions qui sont bien moins bonnes.
Et là, il n'y a plus de fournisseurs. Ça commence à être un peu moins bien, parce qu'il commence à être un petit peu rejeté.
Je pense qu'il ne faut pas trop, comment dirais-je, noircir le tableau en ce qui concerne les possibilités financières du duc. Il avait du crédit. Il avait du crédit. Jusqu'assez tard, il a obtenu du crédit. C'était ça, c'était là-dessus, d'ailleurs, que reposait la prospérité des ducs de Bourgogne. C'est plus sur le crédit que sur la fiscalité qu'il pouvait lever. Mais il est obligé de rétablir le prestige de ses armes, donc il doit mener une deuxième campagne. Et la deuxième campagne, elle tourne encore plus à la catastrophe que la première, puisqu'il est battu sous les murs de la ville de Morat, alors qu'à Grandson, son armée avait fui. À Morat, son armée est détruite. Et là, la situation devient beaucoup plus grave. Tout l'édifice diplomatique que Charles le Téméraire avait mis en place s'effondre, alors qu'à Grandson, bon, ça avait un peu ébranlé l'édifice, mais ce n'est pas une catastrophe complète. Il y a encore la possibilité de rétablir le sort des armes. Mais après Morat, c'est vraiment l'effondrement. Morat a pour conséquence directe le soulèvement de la Lorraine contre la domination bourguignonne.
Et à ce moment-là, le duc Charles doit, toujours au nom de son honneur, l'honneur bourguignon, reprendre Nancy. C'est une petite bicoque, Nancy. C'est une petite ville. 3000 habitants, 4000 habitants, c'est rien du tout. Et donc, évidemment, c'est en plein hiver, ça nous sommes d'accord. Il n'est jamais recommandé au chef de guerre de mener une campagne en hiver. Je le savais, le duc Charles, il avait lu les bons auteurs. Enfin, le duc Charles estimait qu'il était au-dessus du lot. Et alors, donc, il a fait ce siège de Nancy. C'était une imprudence, c'est vrai. Mais après tout, ça pouvait jouer. Nancy aurait pu capituler au bout de quelques jours, de quelques semaines. Et en réalité, Nancy s'est entêtée. Et en même temps, le duc de Lorraine, René II, a réussi, par différents moyens, à obtenir du secours des Alsaciens et des Suisses. Plus l'argent de Louis XI, il faut bien le reconnaître. Donc, le fait de la réaction, disons, très rapide, très énergique du jeune duc de Lorraine, qui avait 20 ans à ce moment-là, a probablement surpris le duc Charles.
Oui, et puis, il est certain que c'est certes une opération téméraire. On l'a beaucoup appelé téméraire à cause de ses dernières campagnes. Mais il est évident que pour lui, il est indispensable, même au prix d'une campagne d'hiver, de maintenir ouvertes les routes qui, à travers la Lorraine, lie les territoires des Pays-Bas bourguignons aux deux Bourgognes. En pleine crise, il est nécessaire que la Lorraine tienne. Parce qu'au moment où la Lorraine s'est soulevée, Charles était prêt à lever une troisième armée pour marcher contre les Suisses. Il a été obligé de réorienter ses options tactiques et stratégiques à cause de cet enjeu considérable qu'est la Lorraine, parce que c'est la question des liaisons internes de l'État bourguignon qui est posée. Donc il est obligé de faire une deuxième fois la conquête de la Lorraine. Il ne reste plus que Nancy à prendre, il assiège la ville, il s'en tête, son armée doit combattre dans des pires conditions sous les murs de la ville. Et cette fois, alors lui qui avait réussi à fuir à Grandson, à tirer son épingle du jeu aussi à Moras, cette fois, dans cette catastrophe complète, ce grand épouvantement de Bourgogne, il est rattrapé par ses adversaires et tué probablement comme un homme de guerre anonyme. Et on ne retrouvera son corps que deux jours plus tard, pris dans les glaces de l'étang Saint-Jean.
Oui, c'est dramatique et romantique.
On a fait des tableaux au 19e siècle, ça, c'est trop beau, effectivement. Mais dès l'époque, on a chanté, non seulement on a récité, mais également on a chanté dans des poèmes, notamment il y a un poème en latin qui s'appelle la Nancéide, qui est très beau, qui est magnifique et qui montre le triomphe de René II face à la si redoutée maison de Bourgogne et face au duc de Bourgogne. Aussitôt après la bataille, il y a eu des chansons, des complaintes, etc. On écrivait sur les murs de Nancy à la craie des récits provisoires, mais j'imagine pathétiques, sur cette extraordinaire victoire qui a auréolé d'un prestige prodigieux le duc de Lorraine, René II.
Puis une leçon religieuse, n'est-ce pas ? Cet homme qui était si puissant, le plus puissant prince de la Terre, qu'on retrouve nu et mutilé dans la boue et dans la glace. Évidemment, c'est un jugement de Dieu. Alors, les Bourguignons auront une vision un peu différente. Ils diront que Dieu a voulu montrer sa puissance en faisant tomber le duc de Bourgogne, qui était pourtant plein de vertus. Il est évident que cette mort dramatique et romantique, comme vous le disiez, a frappé les imaginations. Il y a une extraordinaire postérité littéraire et iconographique de ce thème du téméraire après la bataille de Nancy.
Alors, après Nancy, historiquement parlant, Marie de Bourgogne, et l'héritière, elle, c'est pas toujours facile pour elle. Elle a sa belle-mère, Marguerite d'York, qui est une femme de tête aussi, mais qu'est-ce qu'une femme peut faire à cette époque-là? Donc finalement, qu'est-ce que ça va faire? Le mariage, nous l'avons évoqué.
Bien sûr, il y a le rôle du parrain.
Et Louis XI.
C'est le parrain, le bon parrain, n'est-ce pas? Le bon parrain qui souhaite prendre sous sa protection sa jeune filleule. Voilà. Bon, c'est-à-dire en fait un accès le plus possible des domaines bourguignons.
Louis XI se tient informé de manière très précise de ce qui se passe. Il est informé, semble-t-il, de la mort du téméraire bien avant la cour de Bourgogne. Il est vrai que la cour de Bourgogne devait temporiser et Marguerite d'York et Marie de Bourgogne avouaient assez tard qu'elles avaient des nouvelles de la mort du duc Charles. Mais Louis XI est, je crois, averti le 9 janvier alors qu'on a découvert le corps le 7. Donc il est prévenu très tôt et très tôt, il envoie ses troupes, d'abord mettre la main sur le duché de Bourgogne et entrer en Franche-Comté, donc ça veut dire en terre d'Empire, où évidemment les troupes du roi de France n'ont pas grand-chose à faire. Et puis, lui-même, il envoie ses hommes en Bourgogne et lui-même s'intéresse de plus près à l'Artois, au Boulonnais, même au Hainaut, puisque ses troupes entrent également en Hainaut. Et son ambition aurait sans doute été aussi de mettre la main sur le comté de Flandre. Là, c'est plus difficile, disons. Alors, Marie de Bourgogne est face à ces entreprises françaises, n'est-ce pas ? On dit qu'on veut me garder mes biens, alors qu'en fait, on est en train de me les arracher, dit-elle. Mais pour elle, finalement, le salut, ses conseillers qui sont encore auprès d'elle le lui montrent, le salut vient du côté du projet de mariage que son père avait formé pour elle, c'est-à-dire le mariage avec Maximilien Ier de Habsbourg, avec l'archiduc d'Autriche. Et effectivement, ce mariage va se faire dans ces circonstances qui suivent la mort de Charles le Téméraire. Et Marie de Bourgogne a non seulement face à elle donc Louis XI, mais aussi elle doit faire face à un extraordinaire mouvement de réaction.
Des villes.
Ah ben oui, après la mort de Charles le Téméraire, ce gouvernement très pesant, cette fiscalité très lourde, cet autoritarisme, ces privilèges urbains qui ont été supprimés, ces révoltes urbaines qui ont été réprimées, tout cela constitue un faisceau de circonstances qui explique qu'il y a une véritable réaction d'opposition à la politique bourguignonne. Et on va exiger de la duchesse Marie, la nouvelle duchesse, qu'elle confirme tous les privilèges anciens et qu'elle finalement revienne sur toute une série de réformes que Charles le Téméraire avait faites. Donc il y a évidemment, à l'intérieur même des pays bourguignons, des conséquences extrêmement lourdes sur le plan politique.
Est-ce que le duché de Bourgogne, qui a dû redevenir français, a été assez vite fidèle à Louis XI?
Relativement. Jusqu'au début du XVIe siècle, on pouvait hésiter. parce que, disons, les descendants de Marie de Bourgogne n'avaient pas renoncé du tout à cette possession qui, après, d'après eux, Charles Quint,
oui, on dit
d'après
que...
eux, avait été une possession injuste. Et je pense qu'il y a eu un sentiment d'autonomie bourguignonne assez longtemps.
Louis XI a mené une politique habile face aux Bourguignons. Bon, ça n'a pas empêché que Dijon se soulève à un moment donné, massacre Jean Jouard, qui est un ancien conseiller de Charles le Téméraire, qui était devenu un des artisans du rattachement au domaine royal. Mais il est évident qu'il a fait en sorte que le duché de Bourgogne obtienne un certain nombre de privilèges, où il a aussi confirmé des privilèges plus anciens. Il a créé un parlement à Dijon. Il n'a pas voulu que ce soit le Parlement de Beaune qui était le Parlement du duc de Bourgogne. Donc il a déplacé le Parlement à Dijon, mais il crée une cour souveraine à Dijon pour la Bourgogne. Donc on voit très bien qu'il s'efforce de se concilier les Bourguignons. Le duché de Bourgogne n'avait pas probablement aussi des capacités de résistance très, très importantes. Vous voyez que le ralliement était la solution la plus sage. Il faut reconnaître ses faiblesses.
Donc c'est à partir de Marie de Bourgogne que la France va être encerclée de Habsbourg, puisque Charles Quint, petit-fils de Marie de Bourgogne, fera Habsbourg d'Autriche, Habsbourg d'Espagne.
On peut le voir comme cela, effectivement. Donc, de ce point de vue-là, eh bien, Charles le Téméraire a gagné. A gagné, en tout cas, pour un nombre de siècles, puisque, somme toute, Charles le Téméraire voulait limiter la puissance du roi de France. Eh bien, à terme, ça a été ce qui s'est passé. Alors, la question est de savoir, est-ce que Louis XI aurait pu être encore plus habile, Louis XI et ce fils, Charles VIII, et par conséquent récupérer davantage de l'héritage bourguignon. Donc, il a récupéré la Bourgogne, c'est vrai, et puis l'Artois. La Flandre, c'était quand même extrêmement difficile. C'est quand même... Bon, ça faisait partie du royaume de France, théoriquement, c'est vrai, mais les Flamands sont assez particuliers. Et donc, la même chose pour le Hainaut, le Brabant, ça n'était pas jouable. La Franche-Comté, c'est encore un autre problème. Le fait est, en tout cas, qu'il y a eu un projet de mariage entre Charles VIII et puis Marguerite. Et donc, on aurait pu imaginer que la France, à ce moment-là, s'agrandisse davantage. C'était quand même difficilement jouable. Comines estime que la mort du téméraire a rendu fou d'exaltation Louis XI. Et Comines lui a conseillé, en tout cas c'est ce qu'il raconte dans sa mémoire, du calme, sire, du calme, etc. C'est plus compliqué que ça, je vais essayer de vous aider parce que je connais bien la région. Peut-être que là, il y a eu quelques imprudences du côté de Louis XI. On peut dire que du côté bourguignon, le duché de Bourgogne, Louis XI a été assez habile. De l'autre côté, peut-être un peu moins.
Peut-être moins, oui. Quant aux Habsbourg, je crois qu'ils se sont appropriés l'héritage bourguignon. Maximilien a joué le jeu. Alors, il a eu du mal quand même dans les Pays-Bas. Hein. C'est tout un art que de gouverner les Pays-Bas. Et lui, avec un comportement politique qui n'était pas adapté, a vraiment eu du mal. Mais on voit très bien d'abord qu'il fait sienne, évidemment, la querelle de sa femme. Les Habsbourg vont donc totalement s'approprier l'emblématique bourguignonne, l'héraldique bourguignonne, vont relever la toison d'or. Maximilien Ier de Habsbourg va très vite, dès 1478, réunir un nouveau chapitre de l'ordre pour bien montrer qu'il est le souverain maître de l'ordre de la toison d'or. Eh bien, son fils, l'un des fils qu'il aura de Marie de Bourgogne, son fils aîné, va s'appeler Philippe. Le fils de Philippe s'appellera Charles. Il est évident que ces princes-là s'estiment des héritiers de la maison de Bourgogne. Charles Quint estime, qui est né à Gand, Charles Quint estime qu'il est un prince bourguignon. Et on dit que l'un de ses livres de chevet, c'était Le Chevalier délibéré. Le Chevalier délibéré, qui est une œuvre d'Olivier de la Marche. C'est Olivier de la Marche qui avait été un des fidèles serviteurs de la maison de Bourgogne et qui avait bien connu Charles le Téméraire et qui d'ailleurs avait pris comme devise Tant a souffert la Marche. Ce qui donne une idée, évidemment, du poids que Charles le Téméraire faisait peser sur ses serviteurs.
Donc la postérité de la Bourgogne s'est étendue jusque très longtemps. Merci, monsieur.
Merci, madame.